En Iran, tout est désormais une question de temps. Combien de temps le monde peut-il tenir sans le pétrole qui transite par Hormuz? Combien de temps Donald Trump peut-il justifier cette guerre vis-à-vis de sa base électorale? Combien de temps faut-il à l'Iran pour reconstruire son arsenal balistique, puis pour recommencer son programme d'enrichissement nucléaire? Oui, parce que pendant que les États-Unis s'égarent dans le brouillard iranien, l'heure tourne et nous laisse avec cette question cruciale. Qui est le maître des horloges? C'est l'ordre du monde, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode de l'Ordre du Monde. Je suis seule cette fois-ci, oui, parce que mon binôme géopolitique Mathieu Jolivet profite de quelques jours de repos, mais vous allez voir que je suis très très bien accompagnée cette fois-ci aussi, parce que je suis accompagnée par Adel Bakawan. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Adel.
Je vous en prie.
Adel est un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient. Vous le connaissez peut-être, vous entendez sa voix si vous nous écoutez en matinale. Il vient souvent nous voir à 7h20. Adel, vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa et vous avez d'ailleurs publié un livre sur tous ces sujets il y a un an. Il est sorti chez Talendier. Alors, c'est sorti il y a un an. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais ça reste toujours d'actualité pour comprendre un peu tous les sous-titres, tout ce qui s'est passé avant du côté historique. Ça s'appelle « La décomposition du Moyen-Orient, trois ruptures qui ont fait l'histoire ». Et c'est donc chez Talendier. Donc Adèle, vous avez aujourd'hui une tâche assez compliquée, c'est celle de nous aider avec toutes ces questions de temps. Qui est le maître des horloges aujourd'hui en Iran? On va commencer, Adèle, si vous voulez bien, par Hormuz, donc ce détroit que l'Iran a bloqué au début de la guerre. Les États-Unis imposent un contre-blocage. On sait, on l'a beaucoup dit, que par le détroit d'Hormuz transite à peu près 20% du pétrole mondial. Là, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, on est sur un scénario plutôt de blocage long. C'est en tout cas ce que Donald Trump laisse entendre. Ça pose énormément de questions et surtout, combien de temps encore peut tenir vraiment un blocage du détroit d'Hormuz?
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans cette émission très intéressante. Et je pense c'est la première fois depuis 63 jours, désormais on entre dans 63e journée de cette guerre, c'est la première fois qu'on me pose cette question ou qu'on aborde cette guerre à partir de cette problématique. Et je pense que cette problématique est au centre de toutes les gravités pour expliquer cette guerre. Pourquoi ?
Celle du temps, tu veux dire ?
Exactement. Exactement. Parce qu'on était, il y a 62 jours, à la table de négociation, on avait un Donald Trump qui n'avait pas de temps, justement,
oui,
qui était très très pressé, qui avait une stratégie très très claire. C'est pas vrai lorsqu'on dit Donald Trump n'avait pas de stratégie. Il avait depuis toujours une stratégie. Il a encore cette stratégie et il aura demain aussi cette stratégie, à savoir faire plier les gardiens de la révolution islamique à la table de négociation, mais rapidement. Parce qu'ils n'avaient pas de temps. Seulement, les Iraniens, ils ont une autre perception du temps. Et ils sont dans le temps long, très très long, voire ultra long. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, lorsqu'ils ont négocié avec Donald Trump, enfin pas avec les Américains, uniquement par rapport au programme atomique, ça a duré 20 mois. 20 mois. Et donc aujourd'hui, pour reprendre et répondre à votre question, le détroit d'Hormuz, qui a le temps ? Donald Trump ou les Iraniens ? Ce qui a changé depuis 62 jours, c'est que Donald Trump a intériorisé le paradigme du temps. Il a parfaitement compris que lui, il était très très pressé. Et c'était sa fragilité par rapport au Pasdaran. Pasdaran, c'est les gardiens de la République islamique ou de la révolution islamique en Iran. Et donc, il a changé le paradigme. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les Iraniens imposent leur blocus sur le détroit d'Hormuz, les gardiens, les Pasdaran, pensaient qu'il avait une bombe économique pour bloquer l'économie mondiale.
Et c'est un peu ce qui s'est passé au début.
Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Seulement, au moment où Donald Trump décide d'arrêter les bombardements, les moyens militaires, pour passer aux moyens économiques en imposant un blocus au blocus iranien, là, c'est la totalité vraiment des Pasdaran qui se trouvent en panique totale, pour une raison très simple. La raison, c'est que 90% de l'économie iranienne, c'est du pétrole. Et 90% du pétrole passe par le détroit d'Hormuz. En bloquant le détroit d'Hormuz, Donald Trump met en difficulté structurelle, pour ne pas dire existentielle, toute l'économie iranienne. Et lorsqu'un pays, son économie est en crise structurelle, c'est que le militaire ne fonctionne pas correctement, le diplomatique ne fonctionne pas correctement, on ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer les institutions, c'est tout le pays qui est bloqué. Alors donc, un, le paradigme a changé, deux, Donald Trump nous dit désormais qu'il n'est absolument pas pressé, il prend son temps. Et donc, tout revient à votre problématique.
Oui, qui a le temps. Mais les informations de presse, c'est Kepler notamment qui nous dit que l'Iran désormais a moins de 2 semaines de capacité de stockage. L'Iran ne sait plus où mettre son pétrole parce que les Iraniens ne veulent pas arrêter la production de pétrole pour l'instant. Et en même temps, vous le disiez bien, ils ne peuvent plus exporter par Hormuz. Ils arrivent à exporter une toute petite partie par voie terrestre, mais ça ne suffit pas. Donc, en combien de temps cette problématique du pétrole peut vraiment les faire plier?
Alors,
on parle de semaines, on parle de mois?
Voilà, on a des analyses très très variées. Entre le minimum 15 jours, le maximum 12 mois. Alors donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le minimum dans 15 jours, les Iraniens ne trouveront plus un endroit pour stocker leur pétrole. Le pétrole est en production permanente, parce que lorsque vous ne produisiez pas dans un champ, à un moment donné, ce champ ne sera plus exploitable.
Oui.
Donc les Iraniens se voient techniquement dans l'obligation de produire.
Mais ce n'est pas si simple d'éteindre un champ et de le rallumer.
Exactement.
La production ne peut pas s'arrêter simplement et recommencer juste après.
Exactement. Et la semaine dernière, il y a un cadre dirigeant, un ami proche de Total Energy, qui s'est rendu à mes bureaux pour m'expliquer que moi, je ne savais absolument pas, parce que je ne suis pas spécialiste de domaine, qu'un baril de pétrole égale un baril d'eau potable, purifiée au moins. Et lorsque vous récupérez pas ce baril de pétrole rapidement, et ben ça se mélange avec le baril d'eau. Et après, ce n'est plus exploitable.
Oui.
Alors, donc, les Iraniens, déjà, se trouvent dans cette exigence technique. Et ensuite, le pétrole produit, il faut absolument le stocker. Et on sait très bien que 80 à 90 à 95% du pétrole iranien stocké sur l'île de Karg.
Oui, cette île qui est absolument stratégique et que les Américains voulaient à un moment viser parce que si on frappait Karg, on arriverait à couper le robinet du régime quelque part.
Absolument, absolument. Et donc maintenant, l'île de Karg ne peut pas exporter le pétrole parce que tout est bloqué. Tout est bloqué. Et ce blocus américain, Donald Trump pense qu'il a trouvé le bon paradigme, la bonne option. Oui. Et petit à petit, il s'élargit, même pour arriver à les autres voisins. Hein, les autres voisins. L'Iran a beaucoup, beaucoup de voisins. La Turquie, Azerbaïdjan, Pakistan, Afghanistan, Irak, etc., etc. Et donc, oui, là, les Iraniens se trouvent devant une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait de notre pétrole qui compose 90% de notre économie? Alors, revenir à la table de négociation, oui, mais revenir à la table de négociation, pourquoi faire? Pour être plié par Donald Trump, ça, idéologiquement, les gardiens ne peuvent pas accepter. Donc aujourd'hui, les gardiens, ils sont devant un dilemme, l'idéologie ou l'économie? Est-ce qu'on sacrifie le pays au nom d'une idéologie ou on va négocier avec Donald Trump pour sauver le pays au nom de l'économie?
Dilemme qu'ils vont devoir résoudre donc d'ici 2 mois, avant de terminer la place disponible pour stocker le pétrole. Adèle, on a beaucoup parlé du régime iranien, on a beaucoup parlé de ce régime qui était à genoux. Le premier jour de la guerre, on a entendu beaucoup de médias dire que ça y est, le régime des Mollahs était absolument
décapité.
On voit que 2 mois après, finalement, ça tient. Ce n'est peut-être pas solide, c'est sûrement fragilisé, mais en tout cas, le régime tient. Et on dit aussi qu'il y a eu un changement dans ce régime, qu'il ne faut plus dire le régime des Mollahs, il faudrait plutôt dire le régime des Pasdaran, puisque ce n'est plus un régime religieux, en tout cas les religions n'ont plus vraiment le pouvoir, c'est plutôt l'armée, les gardiens de la révolution, la partie militaire qui a pris le dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse?
Écoutez, déjà, depuis 1979, c'est-à-dire l'année où la révolution islamique de Khomeini s'est mise en place, et l'instauration de la République islamique, il n'y a jamais eu un seul centre de pouvoir. Il y a plusieurs centres de pouvoir, il y a plusieurs pôles de pouvoir, il y a des catégories, je ne dis pas radicalement opposées, mais antagonistes au moins depuis toujours. Autrement dit, vous n'êtes pas dans le contexte d'un régime comme celui de Saddam Hussein. Vous décapitez Saddam Hussein, le régime tombe. Ou celui de Kadhafi ou, en Libye. Ou même celui de Bachar el-Assad en Syrie. Bachar el-Assad, le soir où il a pris son avion à destination Moscou, le lendemain, c'est fini. La Syrie de Bachar el-Assad, c'est fini. Or, ici, vous décapitez le guide suprême. Il y a au moins 7 personnes. C'est un ministère des Affaires étrangères dans un pays très, très important qui me disait, très voisin d'Iran, me disait, les Iraniens ont préparé pour chaque personnalité en partant de guide jusqu'à responsable du Conseil suprême de la sécurité, cette alternative.
Par ailleurs, ça fait partie aussi de leur idéologie, puisque c'est une idéologie qui est en général vouée aux martyrs.
Absolument, absolument. Et donc, vous avez un régime totalement décentralisé. Au moins, aujourd'hui, vous avez plusieurs pôles de pouvoir. Vous avez un pôle dirigé par les radicaux, parmi les plus radicaux, à savoir Wahidi en français. Hein. Wahidi, c'est un général des Pasdaran qui a fait la guerre des années 80 contre le régime de Saddam Hussein, qui est très très proche de Mujtaba, Mujtaba, le nouveau guide suprême.
On n'a pas encore voilà. On se parle, on l'a pas encore aperçu.
Et aujourd'hui, Wahidi a pris la main sur les autres pôles. Mais il n'est pas seul. Le deuxième pôle, c'est le pôle de ce qu'on appelle les nationalistes modérés. Les nationalistes modérés, représentés par Zarif, aujourd'hui par Abbas Araghchi, le ministère des Affaires étrangères, qui sont plutôt pour l'iranité, pour le nationalisme iranien, pour l'économie, pour la réintégration de la République au sein de la communauté internationale. Entre les deux pôles, désormais, vous avez un nouveau pôle, dirigé par Qalibaf. Qalibaf, le président du Parlement iranien, qui est un ancien général des Pasdaran et non pas de l'armée, hein. Ami proche de Wahidi, ami proche de Mujtaba, le nouveau guide, qui a un doctorat en géopolitique, très intéressant, et qui est un businessman, un homme d'affaires. Oui. Et donc, entre ces trois-là, ces trois pôles, vous avez le guide suprême. Historiquement, la mission du guide, c'est être l'arbitre entre tous les groupes. Seulement aujourd'hui, le guide, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, pour des raisons bien évidemment à la fois sécuritaires, on comprend qu'il est en danger total. Et ensuite, il a été lourdement blessé pendant l'attaque du premier jour. Il a perdu sa mère, sa femme, ses enfants, son père, etc.
Et donc, même qu'il est défiguré aujourd'hui,
exactement.
Il est dans le coma.
Réalité, nous n'avons aucune information. Il est dans le coma, il est défiguré, il est à peine blessé, comme les Pasdaran nous disent. En tout cas, Abbas Araghchi a demandé au médiateur pakistanais pour dire aux Américains que nous avons besoin entre 3 et 5 jours pour avoir accès à notre guide et prendre sa validation par rapport à la nouvelle proposition qu'on doit vous présenter. Et les Américains, ils ont accepté cela. C'est pourquoi Donald Trump dit toujours « le guide n'est pas accessible ». Donc, pour répondre à votre question, le contexte de ce régime est différent du contexte du régime, par exemple, de Maduro. Vous prenez Maduro, vous pouvez dire « je change le régime ». Là, le régime, certes, a changé, mais comment ? Le régime a changé parce qu'on est entré dans le contexte de la guerre. Et dans le contexte de la guerre, ce sont les militaires qui prennent, n'est-ce pas, le pouvoir par rapport aux autres pôles.
En restant toujours sur le militaire iranien, on a vu des informations de presse qui disent que l'arsenal de missiles est en train d'être restauré. L'arsenal de missiles iranien est en train d'être reconstruit. Ce sont des sources israéliennes citées par I-24. En gros, les Iraniens sont en train de ressortir petit à petit leurs armes. C'est un peu ce que Donald Trump craignait quand il a signé ce cessez-le-feu. C'est qu'en réalité, cette trêve soit utile aux Iraniens. Est-ce qu'on peut lire là, Adèle, à votre avis, qu'il se prépare à aller à nouveau au combat ?
C'est une question très importante. Écoutez, parmi les Pasdaran, même parmi les Pasdaran, il y a une branche très très radicale qui nous dit les choses suivantes. C'est lorsqu'on a quitté la table de négociation il y a 62 jours, l'initiative ne venait pas de nous, mais plutôt de Donald Trump. Lorsque la guerre a été déclarée, c'était toujours Donald Trump. Lorsqu'on est retourné à Islamabad, c'est Donald Trump. Lorsque, etc., etc. En disant que depuis toujours, ce sont les Américains qui prennent l'initiative. Et ils nous disent, eux, c'est Pasdaran, on est entré dans une nouvelle phase de cette conflictualité dans laquelle nous devons prendre l'initiative de guerre, nous, pour plusieurs raisons. La première raison, pour ne pas subir, bien sûr. La deuxième raison, c'est que nous avons gagné la guerre. Nous avons la main sur cette guerre. Nous sommes plus forts en termes de rapport de force. Il ne faut pas laisser l'OTAN aux Américains pour renforcer leur infrastructure militaire pour nous attaquer. Pendant qu'ils sont fragiles, il faut qu'on attaque nous-mêmes. Deux. Trois, les Américains, ou ils disent les Occidentaux, doivent comprendre que face à eux, il y a une vraie puissance régionale capable de prendre l'initiative. Et c'est maintenant ou jamais. Et donc, pour répondre à votre question, oui, ils ont renforcé leur stock balistique, leur stock, il ne faut pas oublier, de drones. Et leur point fort, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils n'importent pas les drones et les missiles balistiques de l'extérieur, de la Russie ou de la Chine. Ils le fabriquent eux-mêmes, le produisent. Absolument. Autrement dit, des usines enfoncées sous terre, des centaines de mètres là où, jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'ont pas frappé parce qu'ils n'ont pas utilisé leurs bombes comme pendant la guerre de 12 jours pour frapper les programmes atomiques. Ils ne l'ont pas encore utilisé. Hein. Et bien, ces usines, en grande partie, selon les Américains eux-mêmes, certains nous disent, 60% sont protégés. Et parce que ces usines sont protégées, ben ils peuvent bien évidemment fabriquer. Et même, je m'arrête là, il faut lire ce qu'ils disent, hein, les médias des Pasdaran. Je ne dis pas les médias de la République islamique, mais les médias proches des Pasdaran, notamment l'agence FARS et l'agence Tasnim. Ils disent qu'il y a une nouvelle génération de missiles balistiques intelligents que nous n'avons pas encore utilisés. Et que les Américains, les Golfiens, les Israéliens doivent se préparer pour cette nouvelle génération.
Justement, vous parlez des Golfiens, c'est la prochaine question que j'ai envie de vous poser. Il y a une question qui se pose sur les alliances régionales des États-Unis, parce que les monarchies du Golfe, en réalité, ont été prises pour cible dans cette guerre par l'Iran. L'Iran qui a frappé des bases militaires, des infrastructures énergétiques. Et c'est vrai que les États-Unis n'ont pas vraiment su les protéger, alors que ces monarchies du Golfe sont les alliés, en théorie, des États-Unis. Au contraire, avec la politique un peu erratique de Donald Trump en ce moment, le risque, c'est un peu de se retrouver avec des États-Unis qui se retirent, avec un Donald Trump qui dit « c'est bon, j'ai gagné sur tel et tel point, ma guerre est terminée », et qui laisse un Iran affaibli, mais pas tout à fait détruit, et donc qui a une forte envie de prendre sa revanche. Pendant combien de temps vous pensez que les monarchies du Golfe peuvent encore supporter ce type de politique de la part des États-Unis? Combien de temps avant qu'ils ne se fâchent, finalement?
C'est un vrai, vrai choc, un grand choc pour les Golfiens. Pourquoi? Parce que, tout simplement, depuis des dizaines d'années, ils forgent un modèle, n'est-ce pas? Un modèle que j'appelle, bien évidemment, l'autoritarisme basé sur trois piliers. Sécurité, stabilité, développement économique.
Oui.
Aujourd'hui, ces trois piliers de leur régime, de leur modèle, misent totalement en danger. La sécurité.
Bien sûr, les trois sont mis à mal au même moment.
Exact, au même moment. Au même moment. La sécurité n'est plus au rendez-vous. Pourquoi? Parce que les États-Unis, avec qui ils avaient des accords de défense, Donald Trump ne les a pas protégés. Les hôtels, les infrastructures économiques, le corps diplomatique, tout est frappé. Hein. Il faut juste un petit rappel. Israël n'a subi que 15% des attaques iraniennes.
Oui, alors qu'Israël a attaqué directement l'Iran.
Or, aucun pays arabe, aucun pays golfien n'a attaqué l'Iran.
Oui.
Et bien, les pays du Golfe ont reçu, ont subi 85% des attaques. C'est énorme.
Et c'est vécu comme une injustice, évidemment, de la part des pays du Golfe.
Une injustice par rapport aux Iraniens, on y revient. Déjà par rapport aux Américains, oui, il y a une méfiance qui s'installe parmi toutes les sociétés golfiennes par rapport aux États-Unis. C'est pourquoi, lorsque je discute avec les golfiens, à un niveau très très intéressant, j'ai l'impression qu'ils sont dans un nouveau paradigme de sécurité. Et en termes économiques, c'est tout leur modèle qui tombe. Qui est menacé, n'est-ce pas? Dubaï, Jeddah, Riyad, Doha, Manama, etc. C'était des modèles économiques, n'est-ce pas? Qui n'allait pas en Arabie Saoudite exactement, pour signer des contrats?
Occidentaux, voilà. Évidemment, oui.
Avec vision 2030. Mais là, ils voient que ce modèle, malgré toutes ses forces, reste structurellement très très fragile. Et ensuite, ça c'est par rapport aux Américains. Donc il est fort probable que les Golfiens, tout en gardant les Américains comme alliés stratégiques, s'orientent vers d'autres alliances. Par exemple, les Émirats, les Rafales français, étaient beaucoup plus efficaces que toutes les stratégies de défense signées avec les États-Unis. Donc il est fort probable que les Golfiens s'orientent vers les Européens, les Chinois, voire même les Russes, hein. Pourquoi pas les Israéliens. Donc ils cherchent des alternatives pour le moment. Et ensuite par rapport à la République islamique, comme vous l'avez dit, ils pensent que c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Un, parce qu'aucun pays golfien n'est entré dans cette guerre malgré la pression maximale de Donald Trump, hein. Deux, les Golfiens ont fait un miracle pour que Donald Trump n'attaque pas la République islamique d'Iran. Vous vous souvenez, il y a 62 jours,
oui.
Tous les moyens diplomatiques, les lobbies déployés de la part des pays du Golfe.
Ils ont tout fait, tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer d'éviter cette guerre.
Et les Pazdalan, 85% des attaques contre eux. Ils trouvent cette injustice, et cette injustice a instauré bien évidemment une méfiance aussi grande, voire beaucoup plus grande par rapport aux Iraniens que par rapport aux Américains.
J'ai une toute dernière question. Vous avez évoqué l'autre acteur principal de ce conflit, c'est Israël. Israël qui a signé un cessez-le-feu au Liban. Alors au moment où on se parle, le cessez-le-feu a été violé à de nombreuses reprises par les Israéliens. Il faut dire que pour Benjamin Netanyahou, le timing de ce cessez-le-feu n'est pas bon, politiquement, stratégiquement, militairement. Donc il a été un peu forcé de signer la trêve par les Américains. Combien de temps va-t-il, je ne dis pas respecter le cessez-le-feu parce qu'il l'a déjà violé, mais combien de temps va-t-il attendre avant de renverser définitivement la table au Liban?
Tant qu'il y a la pression de Donald Trump, le seul acteur écouté par Benjamin Netanyahu, il est peu probable que Benjamin Netanyahu officiellement annonce la fin de cette trêve. C'est même pas un cessez-le-feu, c'est une trêve. Voilà. Donc une trêve, c'est beaucoup plus fragile qu'un cessez-le-feu.
Oui.
Voilà. Il n'adhère pas, il ne croit absolument pas en cette trêve, il ne croit absolument pas en négociation avec les Libanais. Les Israéliens savent parfaitement que le désarmement du Hezbollah n'est pas possible pour le moment par les États libanais ni par l'armée libanaise parce qu'ils n'ont pas les moyens. Hein. Et donc c'est pourquoi ils s'engagent dans cette guerre-là, sachant que le désarmement du Hezbollah par les Israéliens, eux aussi, c'est une mission impossible. Pour désarmer le Hezbollah, vous n'avez que deux options. On revient encore à la question du temps. Le temps des Iraniens et le temps de l'État libanais. C'est que on signe des accords avec les Iraniens à Islamabad. Quand je dis « on », c'est-à-dire les Américains, ils signent des accords. Dans ces accords, Il inclut par exemple le Hezbollah, le désarmement du Hezbollah, la libanisation du Hezbollah, l'intégration du Hezbollah au champ, dans le champ politique libanais, comme les autres partis politiques. Si cette option n'est pas disponible, il faut que les États-Unis, la communauté européenne, l'Union européenne assument collectivement leurs responsabilités pour soutenir financièrement et militairement l'État libanais pour qu'il puisse désarmer le Hezbollah. À part ces deux options-là, cette conflictualité entre les Israéliens et le Hezbollah durera encore des années et des années.
Encore la question du temps qui manque, du temps qui presse, du temps qui décide un peu tout dans ce conflit, surtout en ce moment. Merci beaucoup, Adel Bakawen, d'avoir été avec moi. Je rappelle que vous êtes le directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Je rappelle aussi votre livre sorti chez Talendier, La décomposition du Moyen-Orient, les trois ruptures qui ont fait l'histoire. Moi, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci, avec Mathieu Jolivet, qui sera de retour. D'ici là, n'hésitez pas, bien sûr, à nous écrire vos questions. Si vous avez des questions pour Adèle, qu'on lui fera passer. Si vous avez des commentaires, des envies pour les prochains épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre toujours sur le site de BFM, sur l'appli BFM Business et sur tous les réseaux de podcast. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.